Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Édouard Philippe, le Premier ministre français, revient de Chine heureux. Le bœuf français, interdit à la vente pour raisons sanitaires depuis 2001, revient sur les étalages des marchés chinois. Une aubaine pour les éleveurs de l'Aubrac. Mais avant le Premier ministre français, ses homologues irlandais, allemands et néerlandais avaient fait eux aussi le voyage de Pékin et négocié le retour de leur bœuf respectif dans l'empire du milieu. Même si l'Union européenne et la Chine se retrouvent régulièrement lors de solennels sommets, le prochain aura lieu en juillet dans la capitale chinoise. Les Européens abordent la Chine en ordre dispersé et les Chinois savent profiter de l'éparpillement européen. Quelle est la stratégie de la Chine envers l'Europe? Les Européens pêchent-ils par naïveté à la gare de Pékin? Les fameuses routes de la soie pour lesquelles la Chine entend investir 1000 milliards de dollars sont-elles une menace ou une opportunité pour l'Europe? La Chine devient-elle une alliée objective de l'Union Européenne face à l'isolationnisme de Donald Trump? Voilà quelques questions que nous allons aborder avec nos invités. Je vous les présente. Bonjour Claude Martin.
Bonjour.
Vous êtes ex-ambassadeur de France en Chine et en Allemagne, Pékin et Berlin. Votre dernier livre, La diplomatie n'est pas un dîner de gala, est paru aux éditions de l'Aube. C'est un peu l'histoire du monde tel que vous l'avez vécu.
C'est beaucoup l'histoire des relations franco-chinoises, puisque j'ai eu la chance à trois reprises d'être posté en Chine et d'être à Paris responsable des affaires d'Asie, en particulier des affaires concernant les relations franco-chinoises, et toujours à des moments importants. Et je continue, bien entendu,
après, à suivre... Et puis après, vous avez été ambassadeur.
Et je continue à suivre les relations franco-chinoises de très près. Et j'ai été directeur général des affaires européennes et ambassadeur en Allemagne, et il y a un lien entre les deux. Mon livre, d'ailleurs, est l'histoire du lien. C'est-à-dire que les relations franco-chinoises sont devenues nécessairement les relations euro-chinoises et en particulier les relations de la France et de l'Allemagne avec la Chine.
Alors c'est un immense livre de 952 pages. Je vais dire tout de suite, je n'ai pas tout lu, mais ce que j'ai lu est passionnant. Chang Lung, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en civilisation chinoise à l'université de Cergy-Pontoise. Votre dernier livre s'appelle « La Chine désorientée ». Vous l'avez écrit avec Aurore Merle aux éditions ECLM. Et puis à Berlin, nous rejoignons Daniela Schwarzer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la DGAP, autant dire la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. En français, vous diriez comment?
C'est le Conseil allemand des affaires étrangères.
En tout cas, merci d'être en ligne de Berlin. Alors Claude Martin, pour illustrer les relations qu'entretiennent la Chine et les Européens, j'ai pris l'exemple du bœuf. Il est d'actualité avec la visite d'Édouard Philippe à Pékin. Et en même temps, il est assez révélateur de la difficulté qu'ont les Européens à aborder l'immense Chine. Car après tout, cette histoire d'embargo sur la viande de bœuf aurait pu être réglée au niveau européen.
Oui, elle aurait dû être réglée au niveau européen, mais l'origine de cet embargo, c'est la crise de la vache folle. Et même entre Européens, ça n'a pas été facile à régler. En Allemagne, par exemple, toutes les questions concernant la consommation alimentaire sont des questions qui sont traitées par les Länder. Et que j'étais ambassadeur en Allemagne, j'ai dû, pour harmoniser les positions franco-allemandes, aller dans tous les Länder les uns après les autres, expliquer que nous souhaitions harmoniser notre attitude franco-allemande vis-à-vis notamment de la viande britannique.
Alors, cette histoire d'embargo, elle est liée à la vache folle, vous l'avez évoqué. C'est un problème qui est réglé de longue date, mais que la Chine gardait en réserve pour les négociations à venir.
Mais écoutez, ça n'est pas une surprise. On voit ce que fait aujourd'hui Monsieur Trump en considérant que les automobiles allemandes menacent la sécurité des États-Unis. On utilise les mesures commerciales pour des motifs qui ne sont pas toujours des motifs commerciaux. La Chine a été l'objet de sanctions après 89 et puis ensuite les Européens ont progressivement allégé les sanctions. Il ne reste plus qu'une mesure, c'est l'embargo sur l'exportation de vente d'armes. Eh bien, la Chine, de temps en temps, pratique à notre égard aussi des sanctions. Et c'en était une, en fait, derrière les mesures commerciales. Donc, il était temps que ça finisse.
Alors Daniel Schneider, le malheur des Européens, tel que vient déjà de l'expliquer Claude Martin, c'est face à un acteur aussi puissant et retors que la Chine, eh bien c'est la dispersion des Européens. Chacun a ses propres intérêts. Alors l'Allemagne, évidemment, a son industrie automobile à défendre. La France, par exemple, ses vins et spiritueux, hein, ce ne sont que des exemples. Et par exemple, l'Allemagne a sacrifié l'industrie naissante des panneaux solaires européens en acceptant le dumping de ces panneaux solaires au profit eh bien, des fameux grosse voiture allemande que les Chinois apprécient tant. Ils sont d'ailleurs pas les seuls.
Oui, c'est vrai que l'Europe n'agit pas d'une manière coordonnée. À mon avis, chaque pays fait de son mieux pour avoir des avantages pour sa propre économie. Qu'il soit des investissements en Chine, qu'il soit des exportations vers la Chine. Et à mon avis, nous sommes dans une situation où nous réalisons lentement le risque stratégique que nous encourons de nous faire diviser par des acteurs avec une puissance commerciale et financière importante extérieure. Et à mon avis, la situation aux États-Unis devrait nous réveiller parce que du coup, il y a deux acteurs, la Chine et les États-Unis, qui, sur le plan commercial, agissent d'une manière divisante vis-à-vis de l'Europe. Et c'est un grand risque parce que nous avons théoriquement une politique commerciale commune, mais sous l'échelle européenne, comme l'a décrit l'ambassadeur Martin, il y a des approches à la fois nationaux et des approches régionales. Et donc le risque est aujourd'hui que nous n'arrivons pas à coordonner d'une manière stratégique l'approche vis-à-vis de la Chine.
Alors, entre l'Allemagne et la France, par rapport à la Chine, il y a quand même une grande différence, Claude Martin. L'Allemagne a un excédent commercial avec la Chine d'environ 30 milliards d'euros, quand la France affiche un déficit, là encore, d'environ 20 milliards. Pour l'Europe, c'est un déficit cumulé depuis 2006, je crois, de 1400 milliards. C'est considérable.
Oui, l'Allemagne s'est, depuis l'ouverture de la Chine, beaucoup mieux débrouillée que nous. Il y a des explications tout à fait faciles à trouver. La Chine, à partir du moment où elle s'est lancée dans une grande politique d'ouverture et de modernisation en 1978, a eu besoin de machines. Alors, elle a acheté beaucoup de machines d'occasion, y compris chez nous. Elle a racheté des hauts fourneaux en Lorraine, elle a acheté des fonderies en Italie, etc. Mais elle a surtout acheté des machines-outils en Allemagne. Et l'Allemagne est évidemment le champion mondial de la machine-outil. Et donc, la production et l'exportation allemande correspondaient très exactement aux besoins de la Chine. Ce qui explique que l'Allemagne était un exportateur tout à fait performant sur le marché chinois. Nous avons eu des spécialisations aussi. Nos spécialités, c'était l'aviation, en partage avec l'Allemagne d'ailleurs, Airbus, les chemins de fer.
Qui est une entreprise européenne et pas ni française ni allemande.
Mais surtout franco-allemande au début, ADS c'était franco-allemand et c'était ça qui intéressait en plus les Chinois, les télécommunications et les chemins de fer. Et puis, progressivement, nous avons un peu perdu du terrain dans ces domaines et nous étions aussi les rois de l'exportation d'armement en Chine. Et l'embargo de 89 nous a sanctionnés, nous. C'est-à-dire nous nous sommes sanctionnés nous-mêmes en nous interdisant d'exporter. Et cette interdiction frappait essentiellement la France. Donc tout ceci fait que nous avons un gros déficit vis-à-vis de la Chine parce que la Chine exporte massivement sur tous les pays européens et les pays européens n'exportent pas tous beaucoup de choses vers la Chine. L'Allemagne exporte beaucoup et tant mieux pour elle.
Alors Chang Lung, comment les Chinois voient l'Europe? Est-ce qu'ils le voient comme un vaste ensemble ou au contraire comme une multitude d'États plus ou moins petits, évidemment comparé à la grande Chine?
Je pense que cet regard est beaucoup évolué pendant ces dernières années. Il y a 20 ans, peut-être on regardait l'Europe comme tous ces pays relativement puissants. Mais aujourd'hui, cet regard a complètement changé. On regarde l'Europe plutôt comme des pays un peu chacun pour soi, des pays deuxième plan, politiquement moins importantes. Voilà, ça explique pourquoi la Chine maintenant a mis beaucoup d'accent pour traiter ses relations avec l'Amérique. Même le Japon accorde moins d'importance pour l'Europe, à condition que les Européens ne se réveillent rapidement. Sinon, je pense que le problème se regarde, ça va encore être aggravé. Bon, maintenant, avec cette guerre commerciale en vue entre la Chine et les États-Unis, peut-être la donne en train de changer, peut-être on va apporter tout à l'heure, ça représente une occasion pour les Européennes, il faut que les Européennes le saisissent bien.
Claude Martin, à Bruxelles, que vous avez évidemment bien fréquenté dans les instances européennes, comment aborde-t-on la Chine? Comment la voit-on?
Pendant très longtemps, les institutions européennes ont traité la Chine en fonction des compétences qu'elles ont, la Commission, le Parlement, le Conseil des ministres, c'est-à-dire, vous l'avez évoqué vous-même tout à l'heure, la politique commerciale. Depuis 75 et surtout depuis 78, ça a été le premier traité commercial entre l'Europe et la Chine, nous avons des règles et nous avons des objectifs. Mais le problème, c'est que les échanges entre la France et la Chine, c'est pas seulement du commerce, c'est surtout des affaires. Et on n'inclut pas dans la politique commerciale la stratégie des entreprises, les investissements et tout ce qui fait le contenu réel des relations économiques. Donc, il y a une contradiction qui a éclaté dans les années qui ont suivi entre le fait que nous avons les mêmes règles vis-à-vis de la Chine, mais pas les mêmes stratégies. Et la Chine, quand elle veut aujourd'hui, non plus prendre l'Europe comme un tout, mais au contraire comme un ensemble dont on peut diviser les parties et opposer les parties les unes aux autres en faisant une sorte de dumping entre les Européens, la Chine a une grande facilité à jouer entre la Chine, entre l'Allemagne, la France, l'Italie, le Portugal. Je pense que on va en parler tout à l'heure. La seule façon de se comporter de façon cohérente à l'égard de la Chine, la seule façon pour l'Europe d'exister en Chine, c'est d'avoir non seulement une politique commerciale commune, mais une politique industrielle commune. C'est ce que j'ai eu la chance de voir lorsque j'étais ambassadeur en Allemagne, entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder, la volonté de pousser les pions communs, les pions industriels communs, c'est-à-dire Areva, dans laquelle les Allemands avaient une part, et une part importante, sur le nucléaire, EADS, c'est-à-dire non seulement Airbus, mais les hélicoptères, etc., sur lesquels nous pouvions jouer en commun. Et l'idée était à ce moment-là que la France et l'Allemagne développent des champions franco-allemands, éventuellement élargis à d'autres Européens, des champions européens, de sorte que nous avions la possibilité d'avoir vis-à-vis de la Chine non pas seulement une politique commerciale commune, mais une industrie commune. Si ça n'est pas le cas, la
ça
Chine,
n'a pas été vraiment le cas.
À ce moment-là, la Chine, comme d'ailleurs M. Trump aujourd'hui, peuvent très facilement dire, bon, vous avez certainement une position commerciale commune, mais je vous fais mal à travers l'automobile allemande ou à travers tel et tel le cognac français, et on nous oppose les uns aux autres. Donc, si nous n'avons pas des produits communs, des industries intégrées, malgré une politique commerciale commune, nous sommes vulnérables.
Alors, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Vincent Barros.
Bonjour Daniel.
Il y a le commerce que nous avons déjà évoqué, puis il y a aussi les investissements chinois en Europe. Ils ont fortement augmenté ces trois dernières années, même s'ils partaient d'un niveau plutôt bas. En France, par exemple, le Club Méditerranée appartient à un capitaliste chinois. Dongfeng contrôle un tiers de Peugeot Citroën. L'Italien Pirelli, qui fabrique des pneumatiques, est lui aussi chinois, tout comme le fabricant allemand de robots, KUKA. Mais les investissements qui retiennent l'attention sont surtout des investissements stratégiques comme le port du Pirée en Grèce. Alors Vincent, vous êtes le correspondant de Courrier International à Lisbonne et vous avez relevé un article de l'hebdomadaire portugais Sábado qui présente les investisseurs chinois comme les nouveaux propriétaires du Portugal.
Oui, et c'était d'ailleurs le titre de une du magazine qui a publié une enquête de 8 pages sur le sujet. On y apprend d'abord que le Portugal est le 10e pays au monde et le 2e en Europe derrière la Suisse, où la Chine a le plus investi depuis l'année 2000. Et au total, cet investissement, qui est évalué à 9 milliards d'euros, représente aujourd'hui 5% du produit intérieur brut portugais. L'article précise par ailleurs que la Chine a investi au total plus de 800 milliards dans des ports, dans des routes, dans des lignes de chemin de fer, pour le déploiement d'une nouvelle route de la soie. Et pour ce méga projet, le Portugal évidemment l'intéresse beaucoup pour sa position au milieu de l'Atlantique et au croisement des grandes routes maritimes. Cela explique entre autres pourquoi l'État chinois est devenu un acteur incontournable de l'économie portugaise, d'autant plus qu'il a misé sur des marchés stratégiques comme l'énergie, les services publics ou les banques.
Alors justement Vincent, on peut voir comme une contradiction. L'Union européenne cherche à protéger ses secteurs stratégiques et le Portugal, lui, est justement prêt à céder son premier groupe industriel.
Et en effet, le groupe China Three Gorges a annoncé à la mi-mai vouloir prendre le contrôle de Energias de Portugal, EDP, qui est la plus grande entreprise publique du pays, dont le groupe chinois était déjà l'actionnaire à hauteur de 23% à peu près. Et cette offre publique d'achat, qui est chiffrée à plus de 9 milliards d'euros, a été perçue comme une menace pour l'indépendance du pays par une partie de la classe politique et de la presse. Et d'ailleurs, Sabado cite un rapport très critique du Global Public Policy Institute, qui est un think tank allemand pour qui le soft power chinois est vu comme un risque à long terme. Mais de son côté, le premier ministre portugais, le socialiste António Costa, ne voit aucun obstacle à cet OPA chinois sur l'électricité portugaise. Laissons le marché fonctionner, a-t-il martelé sur l'antenne de SIC Noticias. Et donc, contrairement à ses voisins, le Portugal continue à faire figure d'allié pour le géant asiatique en Europe.
Claude Martin, quand vous entendez cette correspondance du Portugal, comment vous réagissez? On sent bien que même si les Chinois ont été plus ou moins découverts à un moment par les Portugais, mais ça remonte à des siècles et des siècles, on sent bien que les Chinois ont une approche globale du monde et qu'ils n'ont pas peur d'aller loin et qu'ils visent le long terme.
Oui, absolument. Quand j'ai appris que les Chinois avaient acheté le Pirée, j'étais déjà un petit peu préoccupé. Est-ce que, mais ça c'est lié à l'évolution interne de l'Europe, est-ce que l'Europe est faite pour être ainsi dépecée, cannibalisée par des investissements extérieurs, alors que nous avons toujours rêvé que d'abord il y aurait une certaine priorité entre les Européens et que nous...
Alors en même temps, il n'y a pas d'Européens qui aient acheté EDP au Portugal.
Il n'y a pas. Alors, en soi, il ne me paraît pas anormal que la Chine, qui a des excédents de capitaux, veuille les investir à l'extérieur. Bon, je ne suis pas plus préoccupé dans l'abstrait par un investissement chinois que par un investissement qatari ou même un investissement américain. Il faut voir quelle est l'intention qui s'exprime à travers cet investissement. Quelquefois, il s'agit, parce que la Chine n'est pas monolithique, il peut s'agir de grands capitalistes chinois, de grands milliardaires chinois, il y en a beaucoup aujourd'hui, qui ont envie de placer leurs fonds à l'étranger. Bon. Aéroport de Toulouse, il y a eu un certain nombre d'autocars. Il y a derrière l'investisseur italien dans STX des capitaux chinois. Il y a énormément de capitaux chinois qui sont partis s'investir à l'étranger et qu'on retrouve indirectement dans des investissements de nos partenaires européens. Si ce sont des investissements normaux, ça ne me semble pas préoccupant. Et d'ailleurs, je dois dire, il faut le dire ici, que ces investissements, ils sont surveillés aussi par le pouvoir chinois, qui dit au grand capitaliste, mais pourquoi vas-tu investir à l'étranger?
Vous pouvez aussi investir en Chine. Voilà. Daniela Schwarzer, quand les Chinois ont racheté ce grand fabricant de robots KUKA, ça a interpellé les Allemands?
Oui, tout à fait, parce que on a vu, et peut-être aussi un autre incident, c'est le rachat des actions de l'entreprise automobile Daimler. Ce sont deux exemples qui ont beaucoup agité, au moins les journaux économiques allemands, parce que on a vu que les Chinois arrivent avec du capital et ils reprennent des acteurs économiques très importants en Allemagne. Et c'est là où je vois que notre débat commence seulement aujourd'hui à démarrer, parce que la Chine a très clairement une stratégie. Ils ont une vue de moyen terme et ils ont dit et le disent publiquement très clairement qu'ils veulent être la puissance économique du monde, en fait la plus importante, c'est-à-dire ils se mettent en compétition directe avec les États-Unis, avec l'Europe et aussi avec la Russie. Mais ce n'est pas seulement une question de puissance économique, mais en même temps, ils sont en train de construire une capacité militaire, etc., etc. Et donc,
c'est une puissance globale.
Oui, une puissance globale, et c'est-à-dire, c'est un pays immense, avec les moyens qu'il faut, qui a une stratégie très claire, et qui met en œuvre cette stratégie. Et il y a du progrès. Et donc, nous, les Européens, nous n'avons pas beaucoup de temps de nous rendre compte que non seulement la Chine est déjà très présente chez nous, dans les économies nationales, mais aussi dans l'Union européenne et notre voisinage, par exemple les Balkans.
Que peuvent faire les Européens face à cette Chine dévorante? On va en parler évidemment dans la deuxième partie de l'émission. On va faire une pause tout de suite sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Même si l'Union Européenne et la Chine se retrouvent régulièrement lors de solennels sommets, le prochain aura lieu en juillet dans la capitale chinoise, les Européens abordent la Chine en ordre dispersé, nous l'avons déjà vu. Et les Chinois savent profiter de l'éparpillement européen. Quelle est la stratégie de la Chine envers l'Europe? On commence à la deviner, à la comprendre. Les Européens pêchent-ils par naïveté à l'égard de Pékin? Les fameuses routes de la soie pour lesquelles la Chine entend investir 1000 milliards de dollars sont-elles une menace ou une opportunité pour l'Europe? La Chine devient-elle une alliée, objectif de l'Union européenne face à l'isolationnisme de Donald Trump? Dans ses relations avec la Chine, l'Europe hésite entre la coopération et l'affrontement. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Claude Martin, il a été ambassadeur de France en Chine et en Allemagne. Son dernier livre, La diplomatie n'est pas un dîner de gala, vient de sortir aux éditions de l'Aube. Chang Long est professeur en civilisation chinoise à l'université de Pontoise. Son dernier livre s'appelle La Chine désorientée. Il l'a publié aux éditions ECLM en compagnie d'Aurore Merle. Et à Berlin, nous rejoignons la directrice de la DGAP, Daniela Schwarzer. Claude Martin, on a compris avec un début d'explication de Daniela Schwarzer en fin de première partie que la Chine savait bien trouver les failles dans les pays européens. Il y a évidemment des pays européens plus faibles que d'autres. C'est le cas du Portugal, c'est le cas de la Grèce, c'est le cas des Balkans, puis c'est le cas aussi des pays d'Europe centrale et orientale.
Oui, absolument. Nous ne sommes pas tous suffisamment lucides sur la stratégie chinoise et nous sommes de toute façon dispersés. Alors, les investissements chinois, je le disais à l'instant, pour beaucoup sont des investissements tout à fait normaux qu'on doit traiter comme des investissements normaux de pays étrangers. Il y a une partie de ces investissements qui sont des investissements qu'on peut considérer comme une menace pour notre sécurité ou obéissant à une stratégie que nous ne voulons pas forcément faciliter. Et comme l'a dit Daniela Schwarzer à l'instant, en Allemagne, en France et dans quelques autres pays, on a commencé à ouvrir les yeux sur le sujet. La France et l'Allemagne ont commencé à proposer à Bruxelles ce qu'on appelle une procédure de screening, de filtrage, hein, que l'on examine un peu ces investissements, surtout quand ils ont une certaine importance, et qu'on voit si on peut les accepter ou non. Nous avons, à titre national, un dispositif de filtrage, il s'agit de le porter maintenant au niveau européen. Alors, la France, l'Allemagne sont déjà très actives en ce domaine. On vient de parler du Portugal qui rechigne à se plier à cette procédure de screening en disant, après tout, je veux mes relations avec la Chine et j'ai le droit de les mener comme je l'entends. Et puis, il y a, c'est ce que vous venez de mentionner, tous les pays de l'Est. Les pays de l'Est sont en général des petits pays. La plupart, on n'a pas conscience du fait qu'on a fait rentrer 13 pays, dont certains ont 2-3 millions d'habitants. Ce sont des pays qui ont peu d'existence internationale, qui ont une existence dans le cercle européen, et qui sont littéralement grisés quand la Chine vient les voir en leur disant « nous allons signer un traité entre l'Estonie et la Chine, ou entre la Lettonie et la Chine, ou même entre la Roumanie et la Chine, etc. » Et il s'est passé ce que l'on pouvait craindre, c'est-à-dire que la Chine a signé avec 16 pays, dont une partie des pays européens, des traités commerciaux.
C'est le fameux 16+1. 16+1. Le 1 étant évidemment la Chine.
La Chine. Et c'est totalement illégal. Nous sommes dans une Union européenne avec une politique commerciale commune. Tout accord commercial doit être soumis à l'examen des instances européennes, et de la Commission en particulier, et autorisé avant d'être ratifié. Or, un certain nombre de ces traités ont été signés à l'insu des instances européennes. Donc, il y a une volonté de grignotage de l'Europe par l'Est, très claire de la part de la Chine. Il y a une volonté de dissimulation qui peut être inquiétante. Et je pense que vis-à-vis de ça, la France et l'Allemagne en particulier doivent réagir.
Chang Long, c'est très habile de la part de la Chine de vouloir diviser les Européens, ben notamment par ce sommet 16+1, donc il y a 10 pays de l'Europe, de l'Union Européenne, plus les pays des Balkans, et donc la Chine qui est le numéro 1. Très astucieux de la part de la Chine.
La Chine, cette politique vis-à-vis des Européens, pour moi, c'est assez clair. Hein. C'est parti pour la partie du Sud, de l'Est, pour imposer l'influence par le biais politique, économique, ensuite politique, pour influencer l'ensemble de l'Europe. C'est quelque chose absolument clair. Je ne comprends pas comment les Européennes n'ont pas réagi en attendant jusqu'à aujourd'hui pour voir la situation en train de s'aggraver. Parce que c'est pas simplement une affaire entre certains pays européens avec la Chine, ça relie aussi ce projet de constitution européenne. Voilà, où on ne sait pas comment, si on ne règle pas ce genre de problème, un jour on peut bien progresser, avancer la constitution européenne. L'Europe pourrait être divisée complètement par cette stratégie chinoise.
Daniel Schwarzer, ce que vient d'expliquer Chen Lung, c'est que à l'inverse des Européens divisés et qui jouent pratiquement au jour le jour, les Chinois ont une stratégie de long terme et même de très long terme.
Oui, tout à fait. Et en même temps, je pense qu'il faut voir très clairement que la Chine n'a pas envie que l'Union européenne éclate ou s'affaiblit sincèrement économiquement, parce que la Chine, en gros, a un intérêt de garder, en fait, d'accéder au marché européen, de pouvoir vendre et investir, et aussi de maintenir l'Europe comme une certaine puissance dans le monde, parce que à mon avis, du point de vue chinois, une situation où il y a la Chine et les États-Unis et l'Europe fait partie de la zone d'influence des États-Unis, c'est pas un ordre mondial qui convient aux intérêts chinois. Donc, à mon avis, l'intérêt de la Chine c'est d'avoir accès, d'avoir de l'influence, mais ne pas de détruire l'Union européenne. Et le meilleur exemple est peut-être l'engagement chinois pendant notre crise financière au sein de la zone euro, où la Chine a coopéré avec les autorités financières européennes et aussi globaux pour soutenir la monnaie unique européenne. Mais je voudrais ajouter un dernier aspect, et à mon avis, c'est un argument pour une politique industrielle européenne très déterminée qu'a évoqué l'ambassadeur Martin. Il faut voir que la Chine est dans une phase de digitalisation et est en train de construire un état de surveillance. Et avec les données que les autorités chinoises peuvent collectionner au jour le jour, ils ont une capacité d'analyse de ce qui se passe dans leur économie et dans les secteurs économiques. Et à mon avis, c'est un élément qui explique pourquoi dans l'avenir, les Chinois seront très compétitifs. Nous, on ne va jamais suivre ce modèle de surveillance, de collection de données, etc. Mais c'est important de voir ce qui se passe, parce que pour une fois, il y a un État autoritaire, peut-être totalitaire, qui peut maîtriser et former ses propres marchés et qui peut se positionner dans l'économie globale sur une base que nous, Européens, nous n'avons pas. Ça ne veut pas dire que nous devons adopter tout ce que les Chinois font, mais il faut être conscient du fait qu'on doit trouver notre propre stratégie pour pouvoir être en compétition avec ce modèle économique qui vraiment est un grand défi pour nous.
Claude Martin, quand la Chine finance par exemple le train à plus ou moins grande vitesse entre Belgrade et Budapest, lorsqu'elle rachète le port du Pirée, elle fait de tous ces pays, que vous avez dit relativement petits et relativement modestes, elle fait de ces pays des obligés. Par exemple, on peut garder en mémoire que la Grèce s'est opposée à la publication d'un communiqué commun des États membres de l'Union européenne condamnant les abus du régime chinois, c'était il y a tout juste un an.
Oui, absolument. Nous découvrons petit à petit à quel point un certain nombre de nos partenaires à l'intérieur de l'Union européenne sont déjà en fait conditionnés par la coopération.
Phagocytés, on pourrait dire phagocytés.
Non, ils sont influencés, ils sont sous influence. Voilà, je crois que c'est la bonne formule. Ils sont sous l'influence des investissements et des accords de coopération venant de Chine ou décidés en coopération avec la Chine. Donc, je crois qu'il faut être extrêmement méfiant sur tout ce que la Chine propose comme coopération euro-chinoise, sachant que à l'intérieur de l'Europe, une partie de nos partenaires sont déjà influencés et ne nous aideront pas à trouver la bonne réponse, qui serait une réponse qui préserverait l'indépendance de l'Europe. Daniela Schwarzer vient de le dire, notre grand problème, c'est de définir une relation de coopération avec la Chine en tenant compte des différences entre nous. En 2001, nous avons, nous, Européens, joué un rôle moteur dans l'entrée de la Chine à l'OMC. Nous avons considéré que la Chine était sur la voie de la libéralisation, qu'elle allait devenir une économie de marché.
On s'est trompé.
Et dans les années qui ont suivi, l'évolution n'a pas été celle-là. Et depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping, elle n'est plus du tout celle-là. C'est-à-dire que la Chine se réétatise. Il y a en plus, dans l'ensemble de la société, comme l'a dit Madame Schwarzer il y a quelques instants aussi, un phénomène de contrôle Big Brother par le numérique qui fait que cette économie est entièrement une économie planifiée, organisée, surveillée.
Que Facebook, Twitter n'ont pas de droit de cité en Chine.
Mais plus que ça, je dirais que les investissements privés, et je mentionnais les investissements privés, Fosun dans le club Méditerranée, un certain nombre, qui sont des investissements tout à fait normaux, comme d'autres les font, ils sont quand même coordonnés. Tous les investisseurs chinois privés, quand ils reviennent en Chine régulièrement, sont soumis à des séances d'explication par une commission spéciale qui leur demande pourquoi ils ont investi dans tel domaine, pourquoi ils n'ont pas investi dans tel autre domaine, comment ils pourraient reconvertir leurs investissements dans un domaine plus conforme à l'intérêt national. Donc, il y a une volonté de diriger l'ensemble de la capacité économique chinoise vers l'extérieur en fonction de l'intérêt national, ce qui évidemment n'existe pas chez nous.
C'est évidemment... Et donc, plus dur de lutter lorsqu'on est une démocratie, lorsqu'on a affaire à une opinion publique, que lorsqu'on est un État autoritaire, voire dictatorial, et qu'on a toute l'économie, une grosse partie de l'économie sous son contrôle. On n'est pas à armes égales.
Absolument. Mais la façon dont la Chine est dirigée, nous ne pouvons pas grand-chose sur le sujet. Nous pouvons critiquer, nous pouvons commenter. Je pense que de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, ce que nous devons faire, c'est, dans les accords de coopération, tenir compte du fait que nos économies ne sont pas dirigées de la même façon, que nos États ne sont pas de même nature, et en particulier à l'OMC, mais dans beaucoup d'autres coopérations internationales, et dans le projet des routes de la soie en particulier, veiller à ce que nous ne soyons pas dupes en accordant naïvement un certain nombre d'avantages que la Chine pourra encaisser sans difficulté et dont elle tirera profit sans nous donner la réciprocité. Et le terme de réciprocité est absolument fondamental dans les relations avec la Chine.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, comment les Chinois voient l'Europe et comment les Européens traitent avec la Chine? Nous sommes avec Claude Martin, il a été ambassadeur de France en Chine et en Allemagne. Son dernier livre, La diplomatie n'est pas un dîner de gala, aux éditions de l'Aume. Avec Chang Lung, il est professeur en civilisation chinoise à l'université de Cergy-Pontoise. Son dernier livre, La Chine désorientée, aux éditions ECLM. Et avec Daniela Schwarzer, la directrice de la DGAP en ligne de Berlin. Au centre de la stratégie de la Chine, de Xi Jinping, il y a le projet de la route de la soie, ou plutôt des routes de la soie, un projet pharaonique de 1000 milliards de dollars qui concerne 65 pays. Chang Lung, est-ce qu'on peut résumer en quelques mots la stratégie? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet immense projet?
On doit comprendre, il y a deux volumes derrière ce projet-là. Il y a un volume interne, il y a une logique interne, c'est que vous savez tous, depuis ces dernières décennies que la Chine a développé une surcapacité de production, la structure économique est complètement déformée, déséquilibrée. Ces dernières années, ça crée énorme de problèmes. Donc, comment vendre tous ces produits liés avec cette surcapacité de production? C'est l'un des objectifs de ce projet, de cette initiative de la route de soi. C'est-à-dire qu'on essaie de avec l'aide de financement, avec la construction infrastructure, on paysage un peu, réduit un peu ce problème déséquilibre structurel économique chinois. De l'autre côté, pour l'Est, c'est bien sûr, c'est évidemment, c'est une politique expansionniste à la chinoise. Vous savez que depuis l'époque d'Obama, que les Américains ont re-axé cette politique dans l'océan Pacifique, à l'ouest de l'océan Pacifique. Donc la Chine établit ses stratégies de vers l'ouest, sur la route maritime et aussi sur le continent.
La route de la soie, c'est un certain nombre de projets de routes ferroviaires, de routes maritimes qui drainent, qui irriguent 65 pays, Claude Martin, en quelques mots, vraiment, en quelques mots.
Oui, oui. C'est un projet pour faire des connexions avec l'Europe, à la fois effectivement ferroviaire, par des routes, mais aussi des télécommunications, vers l'Asie, et notamment à travers le Pakistan, par le couloir pakistanais, vers les eaux du Sud, et en direction de l'Afrique. Et on va même plus loin, les routes de la soie d'aujourd'hui, il y a même une route de la soie polaire qui va jusque
évidemment avec
très
la
loin.
Fonte de la calotte glaciaire.
C'est-à-dire, comme l'a dit à l'instant le président intervenant, c'est-à-dire lancer dans le monde des capacités de production, d'investissement et de financement chinoises.
Alors lors de son voyage à Pékin, Édouard Philippe a eu évidemment entendu parler de ce projet de la route de la soie, expliqué par le premier ministre chinois, son homologue, et relayé par CCTV, qui est la télévision officielle chinoise. Alors il y a une grande table très solennelle, très figée, les officiels de chaque côté, et puis au-dessus la petite voix de la journaliste chinoise qui commente à sa manière ce projet de la route de la soie qui a forcément séduit Édouard Philippe.
La Chine apprécie la volonté de la France de participer activement à la coopération pour construire ensemble la route de la soie et souhaite réaliser une synergie réelle entre l'initiative de la route de la soie et les stratégies de développement français, européen, sur le principe de réciprocité. Les deux parties doivent tenir haut et fort l'étendard du multilatéralisme, défendre l'équité et la justice et préserver ensemble les principes fondamentaux des relations internationales. La Chine est prête à s'engager avec l'Union européenne pour assurer un développement stable et durable des relations sino-européennes.
Chang Lung, je ne pense pas me tromper, mais c'est ce qu'on appelle de la langue de bois, hein, en français clair.
Vous voyez que cette réciprocité, ça fait rire. Hein. Par exemple, en France, on peut donner un exemple. En France, on a combien de chaînes officielles, financières par le pouvoir de Pékin, et de journalistes chinois qui travaillent en France, mais combien on a en Chine? Et est-ce qu'on peut dire une chaîne libre diffusée en Chine? Il n'y en a pas. Je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, ce sens de réciprocité. C'est une rigolade.
Alors Daniel Schwarzer, est-ce que l'élection de Donald Trump et sa politique isolationniste change un peu ou pas la donne dans les relations entre la Chine et l'Europe, à votre avis?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, les Européens sont en train de se réveiller parce qu'ils se voient au milieu d'un système international où on parle aujourd'hui beaucoup de big power politics, c'est-à-dire les politiques des grandes puissances mondiales. Et les États-Unis sont une puissance mondiale, puis la Chine a envie d'en devenir une, puis la Russie joue cette carte aussi. Et l'Europe cherche son rôle international. Alors, la question qui se pose pour les Européens, si il y a une dégradation de la relation entre les États-Unis et la Chine, comment est-ce qu'on peut en profiter? Il faut voir, par exemple, si vous prenez l'économie allemande, il y a une dépendance à la fois des bonnes relations avec les États-Unis et avec la Chine. Et donc, le problème politique et stratégique aujourd'hui est comment est-ce qu'on peut gérer une situation où les deux sont dans une situation de conflit et mettre de la pression sur l'Europe de faire équipe avec l'un des deux, ou bien une situation où les deux se mettent tout d'un coup d'accord sur quelques questions clés et l'Europe se sent isolée. Et donc, la Chine, tout d'un coup, devient un acteur intéressant du point de vue européen Parce que la Chine a tout de suite dit, quand Donald Trump remettait en question, par exemple, les accords de climat, ou quelques agences des Nations Unies, la Chine a essayé de se présenter comme acteur qui a envie de sauvegarder ce système. Alors l'Europe doit faire son analyse avec beaucoup de prudence, si on peut croire cette intention. À mon avis, les Chinois ont un intérêt de garder un ordre mondial stable, parce que c'est un système dans lequel ils peuvent poursuivre leur stratégie de puissance mondiale plus facilement que dans un ordre qui tombe dans le chaos. Mais en même temps, il faut être conscient du fait que les valeurs ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, l'importance du droit international, les valeurs telles que les droits humains, la démocratie, etc. Donc, la Chine va utiliser cette situation où les États-Unis ont disparu de la scène internationale comme sauvegardant de cet ordre global. Ils vont profiter de cette situation et les Européens doivent vraiment faire leur choix d'une manière très stratégique sur quel sujet est-ce qu'on peut coopérer avec la Chine et sur quel est-ce qu'il faut plutôt se méfier et ne pas se faire acheter par des promesses qui à la fin ne seront peut-être pas tenues.
Donc le Martin, à l'inverse de ce que vient d'expliquer Daniela Schwarzer, est-ce que les Européens sont-ils susceptibles de faire les frais d'un accord entre Washington et Pékin ? Il y a un risque.
Je suis d'accord avec Daniela Schwarzer pour dire que nous pouvons regarder ce que nous pouvons faire avec la Chine tout en étant méfiants. Et j'insisterai peut-être un peu plus qu'elle sur la méfiance. Pour être tout à fait franc, je pense que nous avons un double défi, nous les Européens. Un défi à l'Ouest et un défi à l'Est. Nous avons d'un côté un président des États-Unis qui veut casser le système multilatéral. Et je dois dire, d'une certaine façon, je le comprends. Parce que quand on a des échanges aussi déséquilibrés, à un moment, ou bien on change le système intérieur pour être de nouveau compétitif, mais je ne vois pas tout d'un coup le président Trump casser complètement toute l'économie américaine pour la rendre compétitive, ou bien alors on change le système international. Donc, il casse le système international. Et la Chine, de son côté, dit qu'elle veut garder le système international multilatéral qu'il existe, mais ce système n'est pas satisfaisant.
Parce que à la chinoise, c'est le multilatéralisme,
c'est un système qui lui est, je dirais presque outrageusement favorable, puisque nous l'avons fait entrer à l'OMC dans des conditions qui ne sont pas des conditions de réciprocité et d'équité. Donc, on comprend tout à fait qu'elle ait envie de garder ce système qui lui profite et qui ne nous donne pas les armes permettant de redresser la situation à son égard. Nous sommes en libre-échange, en libéralisme, avec un pays qui n'est pas libéral. On est dans un certain nombre de domaines de coopération, en fait, dans des situations extrêmement dangereuses. Et si le président Trump applique effectivement à l'égard de la Chine les 25% sur l'acier, l'aluminium, etc., nous pouvons craindre que toutes ces capacités d'exportation chinoise viennent vers l'Europe, que ce soit nous qui en soyons les victimes. Donc je pense qu'il faut que nous ayons, pour être un peu simpliste, un revolver dirigé vers l'Ouest, un revolver dirigé vers l'Est, et dans un saloon où on s'explique de façon virile, on peut commencer à travailler et à discuter à condition d'être tous bien armés. Et la priorité pour l'Europe aujourd'hui, c'est de tenir un langage de fermeté aussi bien d'un côté que de l'autre.
Alors, est-ce qu'il y a une stratégie que les Européens devraient mettre en œuvre ? Vous l'avez expliqué, un fusil de chaque côté, un revolver de chaque côté, mais est-ce que les Européens pourraient profiter de ce que vous avez expliqué comme une faiblesse ? La démocratie, l'état de droit, évidemment, c'est un peu handicapant, une opinion publique, c'est un peu handicapant, pour en faire une force, peut-être pas aux yeux des dirigeants chinois, mais des Chinois.
Il y a une chose qui est en train de se passer, il faut regarder ça avec les yeux grands ouverts et avec lucidité, c'est que l'Europe à 28 n'est pas capable de relever ses défis. Pour les raisons que nous évoquions tout à l'heure, c'est le dialogue 16+1, il y a un certain nombre de pays qui ne nous suivent plus, tout simplement parce qu'ils sont sous influence. En revanche, on a quelques pays qui se trouvent être d'ailleurs les pays de la vieille armature, de la vieille communauté européenne, qui sont là et qui, eux, ne veulent pas se laisser abuser. Et c'est un peu la même chose qui se passe que l'on évoque la monnaie, que l'on évoque les migrants, que l'on évoque... On assiste à travers le défi chinois ou le défi américain, à l'émergence d'un noyau dur européen, qui est un noyau de pays responsables, ayant la capacité de réagir, au milieu d'un groupe de 28, bientôt 27, qui est un groupe mou, sinon même un groupe impuissant. Et je pense que il y a maintenant une course de vitesse entre le défi qui est devant nous et les décisions que nous devons prendre pour, à quelques-uns, réagir.
Zhang Long, vous allez avoir le mot de la fin. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux Européens pour faire face à la stratégie chinoise, pour faire face aux ambitions chinoises qui respecteraient les intérêts des uns et des autres?
Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vient d'être dit. Hein. Simplement, j'ajoute une information. Il y a 3 jours, avec 4 ans d'intervalle, les autorités chinoises de sommet du pouvoir ont organisé une réunion sur les affaires étrangères. Hein. Pendant 2 jours, ils ont discuté pas mal d'actualités. Si on lise les infos, il y a certains changements au niveau de thèmes relativement importants. Par exemple, ils ont insisté bien que la Chine doit participer à rétablissement de nouveau ordre mondial, c'est maintenant fixé comme objectif tout net, net et clair, affiché. Donc, je pense que dans ce contexte-là, les Européens doivent absolument réagir rapidement pour trouver des points communs face d'un côté Trump, de l'autre côté la Chine.
Jean-Louis, j'espère que les dirigeants européens vont vous entendre à la veille de ce sommet européen et des suivants, de ceux qui vont suivre évidemment aussi lors de cette prochaine rencontre entre la Chine et les Européens. Ce sera au mois de juillet à Pékin. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Je rappelle vos livres, Claude Martin, La diplomatie n'est pas un dîner de gala aux éditions de l'Aube. Zhang Long, La Chine désorientée avec Aude Merle aux éditions ECLM. Réalisation Boris Vissut et Guillaume Munier avec Maria Afonso et Vincent Barros de Courrier International. Sur la page de l'émission Des Infos sur nos invités, pour réécouter ce Carrefour de l'Europe, le site RFI.fr ou l'appli radio RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter, mais pas en Chine, puisqu'en Chine, Twitter et Facebook ne sont pas accessibles. Daniel Les Escales, où que vous soyez, en Europe, en Asie ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.